loin de cette agitation. Fabrice avait 3 semaines devant lui pour se remettre et se préparer au rendez-vous suivant. Dans les émissions de radio interactive, de nouvelles voix intervinrent, qui n'étaient pas adolescentes. C'était celle des mères qui témoignaient de leur émotion devant la fragilité de cet enfant jailli de l'antépénultième siècle. Influence de la Kaïra sur le grand monde, dans les soirées, les jeunes arborèrent des hautes formes. Fashion, Proust se révélait posthume mais efficace prescripteur de tendance. Dans les beaux quartiers, Marcel était le hit boy, imagerie crypto-gay, métrosexuel toujours tiré à 4 épingles. Accroche-cœur et fine moustache pour fignoler ce full package doré à l'or. Devant la passion banlieusarde, certains engoués des quartiers ouest de Paris s'estimèrent floués, spoliés. Un crépuscule appelé « Le 16e ne recherche pas, il est proustien » s'en prit vertement à Jamel et à ses amis, au prétexte qu'il n'était culturellement pas en phase, que Proust se méritait. Que la rime Marcel Jamel ne justifiait pas une appropriation frauduleuse, qu'il fallait des particules séculaires pour comprendre le divin roman, et que la France, c'était 1000 ans de royauté. Avec un inattendu touche pas à mon Proust, se détourna un slogan célèbre. Le spirituel de Bouze eut le bon goût de ne pas réagir. Sauf en rappelant qu'il était d'ici, lui aussi, je suis un icicien. Mais un collectif s'en chargea, baptisé BCNP, soit Bondy Clichy, Neuilly-Passy. À vocation écuménique, il résumait sa pensée en une formule : le faubourg et les faubourgs sont également légitimes. Dans la foulée, un autre groupe baptisé les Beaux Q, l'être Q, entendait partager et prônait les mélanges culturels. Puisque la banlieue se mettait au subjonctif imparfait, ses représentants des quartiers chics, encore appelés les QUP, accaparaient un langage plus relâché et lançaient de tonitruants et joyeux « Cool Proust, roule Proust ma poule ». Et il faisait entendre dans les contre-allées des avenues arborées où il résidait des slogans rassembleurs, Marcel Chicot ou Marcel Pourave, tous unis, prolétaires, nobiliaires, chic, solidaires. Les plus résolus d'entre eux, imitant leur 68 art de grand-père qui poussait au travail en usine, allaient s'installer dans les quartiers P pour pauvres, afin de s'y fondre et de créer l'homme nouveau, le prolaristo. On se tordit de rire dans les cages d'escalier. Un attachement fort se porta sur un autre personnage du roman, la duchesse de Guermantes. Et pour un aspect particulier de sa personnalité, ses mots drôles et cruels. Une autre femme conquit le cœur du public, Françoise. Les sentiments suscités par les deux étaient à front renversé. L'aristocrate était la coqueluche du populo et la domestique tenait le haut du pavé chez les nantis, comme si ceux-là reconnaissaient leur propre personnel ou aspiraient à y trouver une telle employée, expression d'un attachement fidèle, même si elle s'affranchissait de quelques devoirs. Son fan club saluait sa distinction opposée à tous les proutes-machères, précieux et maniérés. Aujourd'hui, en France, se prépara à un teasing. Il annonça que, la semaine précédant chaque session, il publierait un résumé des pages à venir, préfigurant les morceaux de bravoure. Fabrice, d'abord hostile, puis sceptique, se laissa finalement conquérir. Sur Facebook, les deux sites Marcel Proust et À la recherche du temps perdu. Riche de 27 361 et de 2 894 membres, virent leur compteur s'emballer et relayèrent la promotion des performances de Fabrice, qui se retrouvèrent du même coup saucissonnés sur YouTube et MySpace. Comme des amateurs de musique pirates des concerts, des spectateurs d'Illier avaient filmé discrètement ce qu'ils étaient venus admirer. D'autres les imiteront à chaque séance, participant à la prolifération des mots de Proust, à leur essaimage et à leur pénétration dans tous les milieux. Côté image, justement, le début décembre fut mis à profit pour rattraper le temps perdu. Plusieurs télévisions voulurent acheter les heures que Valentin avait déjà enregistrées. C'est l'agence CAPA qui rafla la mise. Son fondateur s'engagea à prendre le relais sur l'ensemble des prestations à venir, se réservant l'utilisation complète du document en proposant aux médias intéressés des extraits significatifs. Cette solution convainc à l'entourage de Fabrice qui voulait éviter une guéguerre des caméras. Lui, Fabrice, se retrancha dans une retraite connue de son proche entourage, qui reçut pour consigne de ne l'y déranger qu'en cas d'absolue nécessité. C'était à Londres. Il avait curieusement besoin et de calme et d'agitation. La capitale britannique lui offrait l'un et l'autre. Il descendit au Lancaster, sur Bayswater Terrace. Sa chambre donnait sur Hyde Park. La qualité de la villégiature restait son seul luxe. Il se levait tard, allait faire un footing dans le parc, déjeunait chaque jour dans un restaurant différent, se promenait dans les quartiers animés l'après-midi et dînait légèrement allongé sur son king size bed. « Do not disturb ». Comme rien n'avait plus de hauteur que le projet, les proches eurent la conviction qu'il fallait le laisser en paix et ne transmirent aucune information particulière. Fabrice en profita pour respirer, s'emplir les poumons d'air frais, non pour réviser. Il tenait son texte et n'estimait pas utile de le travailler, sauf à le feuilleter souvent. L'ouvrage lui était devenu une drogue. Accro à Proust, voilà une dépendance que les tablettes de la toxicologie ignoraient. Ainsi s'écoulèrent 3 semaines de pure détente. 24 jours après la fin de la première semaine, Fabrice Pelletier reprit l'Eurostar et Gare Saint-Lazare monta en première classe dans un train pour la Normandie. Il était 11h45 ce dimanche et les wagons étaient pleins. Il changea à 13h24 à Lisieux et arriva 1h21 plus tard en gare de Dives-Cabourg.